Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre. Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Photographe, réalisateur de documentaires, conférencier, guide accompagnateur de trekking, David Ducoin parcourt le monde, d'abord en famille, puis seul. Après un premier voyage aux Zanskars en 1989, il réalise un voyage de 18 mois à travers l'Asie, parcourt l'Inde, l'Himalaya et part à la rencontre des Amérindiens pendant plus de 2 ans. De l'Alaska à la Terre de Feu, David ne s'arrête jamais de voyager. Une vie sur la route qu'il présente dans cette émission de Regarde ailleurs.
Les Ducoin, on l'appelle la tribu Ducoin maintenant, c'est une famille de voyageurs. Donc mon père et ma mère ont commencé à voyager pour un voyage de noces en Écosse en plein hiver. Puis après, ils ont fait des enfants et ils nous ont mis dans un petit fourgon aménagé. On a voyagé un peu partout en Europe jusqu'à ce qu'on ait l'âge de 15, 16 et 17 ans avec mes frères et sœurs. Et puis là, on a commencé à faire des voyages au long cours en Inde, enfin en tout cas des longs courriers en Inde, Népal.
Mais en famille à ce moment-là ou indépendamment?
Toujours en famille à ce moment-là. Et puis après, chacun a voyagé indépendamment en fait. Et donc, mon père a fait de la photo, du film, mon frère est monteur audiovisuel. Et puis moi, j'ai appris en autodidacte avec eux à faire des photos et du film aussi, à me professionnaliser un peu. Et puis à guider pour des agences de voyage.
Qu'est-ce qui te reste d'une enfance comme ça, sur la route à voyager avec tes parents dans un fourgon? C'est quand même intéressant, c'est quand même très différent de ce qu'ont pu vivre tes copains.
Oui, donc c'est ce qui me reste, c'est plein de rencontres, c'est de tout le temps aller vers l'inconnu, d'apprendre une langue, de manier une monnaie différente, d'être invité sous les tentes de nomades, d'être invité chez les gens, donc d'être toujours en phase d'ouverture et d'apprentissage. Maintenant, ce qui me reste, c'est aussi que j'étais effectivement vraiment différent des autres enfants qui vont à l'école, qui vont faire les vacances au camping et qui ont d'autres aventures. Donc j'étais un petit peu partagé entre ces deux vies, quoi.
Parce que toi, t'as pas eu l'école? T'as eu l'école sur la route?
Si, on était quand même à l'école. On partait à chaque vacances scolaires. Donc on avait une école normale, enfin une éducation normale, sauf qu'on revenait effectivement complètement différent. Quand on a passé 2 mois et demi en Inde, avec dans l'Himalaya, avoir des éléphants, des chameaux, toutes sortes de trucs pas possibles, et puis qu'on rentre sur les bancs de l'école, c'est un peu difficile de se recadrer avec le côté un peu formaté de l'école.
Est-ce qu'on arrive à se faire comprendre par ses copains? Qu'est-ce qui te reste comme mémoire de cette époque-là où tu reviens effectivement d'un voyage incroyable et tu te retrouves avec des gens qui, eux, n'ont peut-être pas quitté le village? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un partage? Ou est-ce que finalement tu renonces à ça et puis tu t'adaptes comme tu le fais quand tu pars en voyage?
Je dirais que sur le cursus primaire, on va dire, jusqu'au collège, c'est pas évident parce que les gamins, c'est des ados. Ils disent « Ah ouais, c'était bien, mais ils ne cherchent pas à en savoir plus. » Et puis, c'était pas évident d'être dans le partage et pour eux de comprendre ce que j'ai pu vivre. Donc, je gardais ça pour moi. À partir du lycée, quand même, on voit que les jeunes sont beaucoup plus ouverts et sont à l'écoute et ont même, à leur tour, envie de voyager. Et là, c'est la tendance qui s'inverse. Et là, ils commencent à poser beaucoup de questions et être un peu jaloux de tous ces voyages, quoi.
Et souvent, quand tu es adolescent, des fois, tu prends le contre-pied du schéma qui t'est imposé par tes parents. Mais toi, tu as continué à voyager, tu as choisi de continuer ce mode de vie.
Oui, alors c'est étonnant parce que sur les 3 enfants, ma sœur s'est bien sédentarisée. Bon, elle s'est sédentarisée au Québec maintenant, donc c'est pas toujours en France. Et puis moi, effectivement, j'aurais pu prendre le contre-pied, mais je pense que les expériences étaient tellement fortes que je vivais que ça me correspondait. Donc au contraire, j'ai continué à fond, ouais.
Comment t'as fait une fois l'école terminée? Parle-moi un peu du parcours de David Ducoin.
L'école terminée, en fait, oui, effectivement, c'est moi qui ai terminé l'école en première, dès que j'ai eu 18 ans, et puis parce que je m'emmerdais vraiment sur les bancs de l'école, et j'apprenais beaucoup moins que tout ce que j'apprenais en voyage. Donc j'ai arrêté en première, et j'ai voulu vivre pour voyager, donc j'ai fait un stage de crêpier. Je suis devenu crêpier, je suis breton à l'origine. Donc j'ai fait une première saison de 6 mois dans un restaurant et avec cet argent-là, je suis parti 1 an et demi en voyage, en stop par la route pour aller en Inde, en dépensant évidemment le moins possible. Et à l'époque, j'étais parti avec 25 000 francs en traveler chèque, mon passeport et puis et l'aventure pendant 1 an et demi. Après, j'ai continué à faire des saisons dans la restauration. faire différents voyages jusqu'à ce que j'en ai marre d'être en cuisine 18 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant une période de l'année. Et là, j'ai commencé à accompagner des groupes pour Nouvelles Frontières d'abord pendant 2 ans, puis Terre d'Aventure pendant 10 ans, Alibert Trekking pendant 7 ans. Et puis maintenant, Tamera Aventure à l'heure actuelle.
Ah, moi, je t'identifiais comme un photographe, en fait.
Bah, oui, ça, c'est mon parcours guide. J'ai plusieurs chapeaux aux casquettes. Après, j'ai un parcours photographe. Là, j'ai appris la photo avec mon père. On a publié nos premiers livres en famille sur nos premières expériences aux Anscars en 89, quand on avait 16 ans. Et puis, suite à la publication de ces livres, moi, j'ai commencé à me professionnaliser aussi. Donc, j'ai commencé à faire des articles dans les revues, Trek Magazine, Grand Portage, puis bien d'autres, des revues thématiques, et à faire des livres. Donc, au départ, avec des petits éditeurs, entre guillemets. Et puis après, maintenant, avec Elena, on fait des beaux livres régulièrement. Donc, ça, c'est mon parcours un peu photo. Après, j'ai un autre parcours qui est film documentaire. Donc mon frère a fait un BTS de montage audiovisuel, et quand on avait une vingtaine d'années, on a décidé de faire un projet ensemble, d'aller faire un film aux Anscars sur la médecine tibétaine avec un producteur. Et on a fait notre premier film, c'était une toute petite coproduction. On l'a vendu à Arte, on a eu beaucoup de prix dans les festivals, Musée de l'Homme et puis d'autres festivals. Et puis on a fait suite à ça d'autres films pour France 3, France 5, France 2. Donc après, j'ai eu tout un parcours de films documentaires pour la télévision. Alors ça peut être sur le bouddhisme tibétain, des aventures en Arctique sur le passage du Nord-Est avec un voilier qui s'appelle Vagabond, l'histoire d'un facteur sur la rivière gelée. Et puis dernièrement, alors une autre casquette encore, c'est conférencier pour Connaissance du Monde, les grands explorateurs au Québec ou Exploration du Monde en Belgique. Et là, on a fait une expédition avec ma compagne de l'époque. On a été de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu en 2 ans de voyage. Et on s'est intéressé aux populations autochtones en thématique. Donc on a fait ce film. Après, on a tourné pendant 5 ans en conférence avec ce film.
Mais dans ton parcours, as-tu l'impression que tu as passé plus de temps en dehors de la France ?
Bah oui. Ouais, je pense que si je calculais, ouais, c'est sûr. Hein. Rien que sur l'Inde, en Inde, j'ai dû passer 5 ans en tout. Hein. En Chine, 2-3 ans. En Amérique, 3-4 ans aussi. Donc ouais, ça va vite.
Quand tu as commencé à voyager seul, tu as choisi des destinations que tu connaissais déjà parce que tu avais été avec tes parents, ou comment est-ce que tu as choisi tes pays ?
Bah, quand j'ai commencé seul, c'était ce premier voyage par la route. Donc c'était plutôt des grandes idées, des grandes lignes à me dire, tiens, symboliquement, je vais aller aux Zanskars pour retourner voir mes amis. Donc une destination que je connaissais bien. Mais je vais y aller par la route pour ne pas prendre l'avion, pour connaître la progression. Et puis après, j'avais dans l'idée de rentrer par le transsibérien parce que c'était aussi symbolique et mythique pour moi. Donc je me suis dit, bah, je traverse le Vietnam, la Chine, le Tibet pour aller jusqu'à Pékin et prendre le train.
Et tu réussissais déjà à cette époque-là à vivre du voyage, à créer un modèle économique autour de tes voyages ? Comment est-ce que tu faisais pour financer tout ça ?
Bah non, au début, bon, j'ai toujours financé moi-même, c'est-à-dire que j'ai rarement demandé de l'argent à quelqu'un pour aller voyager, mais j'ai travaillé, donc j'ai ces saisons dans la restauration pendant 7 ans. Et puis après, bah, je vis du voyage, le modèle économique, il est guide de randonnée, photographe, réalisateur, des fois les deux ou les trois en même temps. C'est-à-dire que je pars comme guide, mais je profite d'être sur place pour faire des photos ou pour faire un film. Et je reviens avec des photos, je vais les vendre. Et avec l'argent, je repars et je vais guider à nouveau. Et voilà quoi, il faut être vraiment comme une auto-entreprise, hein, freelance total. Et il faut toujours investir en voyage, en destination, en aventure pour pouvoir après en vivre et en programmer d'autres.
Et ça fonctionne combien de temps ? Est-ce qu'à un moment donné, on s'épuise et on a envie de se poser un petit peu et d'arrêter d'être toujours en mouvement ?
Bah, moi, je ne me suis pas épuisé jusqu'à maintenant, mais maintenant, j'ai un petit bébé avec une femme coréenne, sud-coréenne, et du coup, bah, j'ai envie de la voir un peu grandir, c'est-à-dire que soit je pars avec elle en voyage, donc ça devient du voyage en famille à nouveau, bon, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et du coup, là, j'avais vraiment envie de me poser, c'est-à-dire que voyager en pensant tout de suite à avoir quelqu'un, et avoir sa famille, du coup, on ne voyage plus pareil. Et là, effectivement, je me suis posé, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne voyage que 2 à 3 mois par an, mais je travaille pour une agence de voyage.
T'as une vie qui fait rêver pas mal de monde, surtout dans des contextes comme celui-là, le Grand Bivouac, un festival autour du voyage où il y a plein de jeunes qui viennent, qui ont des étoiles plein les yeux, une envie d'ailleurs, envie d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que tu leur dis ? Est-ce que c'est possible de faire ce que tu as fait à ton époque ? Parce que tu as créé ton boulot finalement, tu as quitté l'école à 18 ans, mais tu as très bien réussi autour du voyage à le rendre viable.
Oui, je leur dirais, comme pour le reste, ce qu'on fait, il faut le faire avec passion. Moi, quand j'ai créé mon modèle économique, maintenant, effectivement, je vis totalement du voyage, mais ce n'était pas forcément l'idée. C'est-à-dire que je voulais vivre ma passion. Après, j'ai vécu de ma passion. Et quoi qu'il arrive, même quand j'investis énormément de temps, des fois énormément d'argent à faire un reportage, à faire des photos, je ne sais même pas si je vais gagner quelque chose avec, mais j'ai pris plaisir à le faire. Et ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le temps, mais il faut voir tout de suite le capital plaisir qu'on éprouve. Quand on monte quelque chose, une entreprise, n'importe quoi, l'entreprise peut se casser la gueule du jour au lendemain. Donc tant qu'à faire, autant prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et puis après, le reste, il va suivre. Alors il va mettre 10 ans, il va mettre 20 ans, il va mettre 30 ans, mais il viendra quand on fait les choses avec passion et pas en dilettante, parce que en fait, moi, j'ai fait que ça tout le temps. Donc celui qui dit « je voudrais vivre du voyage, j'essaye un peu, mais pas trop », il n'y arrivera pas. Donc faut juste tout investir, se mettre entièrement dans le projet, et évidemment que ça va aboutir.
Tu parlais avant des magazines pour lesquels tu travailles, Grand Reportage ou d'autres médias. Comment ça se passe ? C'est des commandes, on te demande d'aller faire un sujet, ou c'est toi qui, sur le terrain, découvre quelque chose qui te passionne, tu choisis d'y rester, d'écrire, de documenter la thématique et ensuite de la proposer ?
Non, moi, j'ai jamais eu de commandes, enfin presque jamais, vraiment jamais de commandes. Donc je fais justement ce qui me plaît, donc le reportage que j'ai envie, et après je vais démarcher pour le proposer. Donc c'est d'autant plus difficile, mais c'est rare qu'un magazine à l'heure actuelle commande à un photographe un reportage, ou bien il faut être un très grand photographe, ou peut-être on peut avoir des commandes. Mais sinon, alors faut faire évidemment, il faut toujours trouver le juste milieu entre le reportage qui plaît et la façon dont on va le traiter pour qu'on puisse quand même intéresser du public et intéresser la rédaction d'une revue. Donc il faut rester en contact avec les rédacteurs pour savoir quelle est la tendance, savoir si par exemple justement la Corée du Sud ça va plaire ou pas plaire, ou une destination, essayer de tâter un peu le terrain pour voir ce qui pourrait fonctionner. Et évidemment, on a toujours envie de faire 4-5 reportages et choisir celui qui a a priori le plus de chances de marcher, quoi.
Question que j'aime bien poser, c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est que pour toi ? Quelle est ta définition du voyage et du voyageur ?
Je ne sais pas, le voyage, c'est déjà un déplacement, mais c'est aussi la vie. C'est-à-dire que bon, on ne s'arrête jamais. On peut être en voyage quand on est chez soi. Enfin, c'est un état d'esprit, quoi. Le voyageur, c'est nous. Le voyageur, c'est celui qui vit le voyage. Donc, voyageur, c'est celui qui arrive à avoir l'esprit assez ouvert pour absorber d'autres cultures, pour voir ce qui se passe ailleurs, pour goûter à tout. Et donc on peut être justement un voyageur sédentaire, et puis un voyageur, comme il y en a beaucoup maintenant, qui consomme du voyage, qui s'achète des voyages ou des trekking de l'année, mais sans rien voir, sans rien écouter, juste pour marcher, qui reviennent et ils n'ont pas voyagé.
Sakhilal kalandar mast mast sakhilal.
Bah, mes destinations de prédilection, bah, c'est les destinations que j'ai connues bah, quand j'avais 16-17 ans avec mes parents, donc l'Himalaya, le Zanskar en Himalaya, donc au nord de l'Inde, puisqu'on s'est lié d'amitié avec une famille qu'on retourne voir régulièrement. Bon, le Népal, c'est vraiment un pays où j'ai beaucoup travaillé, que j'aime beaucoup, j'y ai un peu vécu. Donc voilà, ça c'est les destinations phares, avec évidemment le Tibet derrière, ou toutes les régions tibétaines, puisque j'ai appris un peu de la langue zanskarique, un dialecte de tibétain. Et du coup, ça me permet de communiquer dans toutes ces vallées, dans toute cette aire culturelle tibétain.
Ça, tu l'as appris enfant avec tes parents déjà ?
Je l'ai appris, j'ai commencé à apprendre enfant. Et puis après, les hivers que j'ai passés là-bas faisaient qu'on était avec des amis qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Et nous, on était très peu nombreux. Donc pour communiquer, j'ai appris cette langue. Enfin, en tout cas, les rudiments. Mais ça me permet maintenant de communiquer, d'appréhender un peu la culture. J'aime beaucoup le bouddhisme tibétain aussi. Donc c'est un environnement dans lequel je me sens très très bien et qui me manquerait si j'y allais pas. Malgré que je sois interdit de Tibet maintenant, puisque les Chinois ne me laissent plus aller là-bas. Et puis après, mes autres régions de prédilection, c'est l'Amérique du Sud. Peut-être plus la cordillère des Andes, mais quand même toute l'Amérique du Sud. Donc Pérou, Bolivie, Équateur, Patagonie. Donc là, le fait d'avoir vécu d'abord 2 ans de voyage pour faire ce film. Et puis après, j'y suis retourné régulièrement. Et j'aime beaucoup cette culture latino un petit peu, et surtout la culture andine. Bon, j'ai beaucoup vécu dans les familles, j'ai beaucoup d'amis. Donc voilà.
Le Tibet, tu disais, tu ne peux plus y retourner. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut être interdit de Tibet ?
Ils m'ont pas donné la... Si, a priori, on a demandé un visa de groupe et puis le visa a été refusé parce qu'il y avait une personne pro Dalai Lama. Et quand on a demandé qui c'était, c'était moi. Maintenant, je ne sais pas quelles sont leurs sources, d'où ils tiennent ça. Je ne comprends pas trop. Non, mais c'est vrai que j'ai été photographié le Dalai Lama pour des initiations. Mais en tant que voyageur qui adore le Tibet, évidemment, j'ai gardé un profil assez bas sur le côté politique. Maintenant, ça rattrape à un moment ou à un autre, quoi.
Donc c'est vraiment possible, c'est pas une légende, c'est pas un mythe, on peut être interdit de Tibet si on est trop proche du Dalai Lama.
Ah oui, tout à fait, mais je suis pas le seul. Il y a beaucoup de Tibétains qui sont interdits de Tibet d'ailleurs, mais beaucoup d'étrangers.
Et ton lien avec la Corée ? Tu y as voyagé ?
La Corée du Sud, j'y ai voyagé, j'y ai vécu. Donc ma compagne est sud-coréenne. Bon, j'aime beaucoup ce pays, peut-être que j'y vivrai pas, mais c'est un pays absolument extraordinaire. En termes de paysages, de possibilités de randonnée, de culture bouddhiste, et puis surtout une alimentation qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître, rien à voir avec la cuisine chinoise, rien à voir avec la cuisine japonaise, vraiment une alimentation très très typique de la Corée. Donc c'est un vrai voyage là, la Corée c'est du... quand on y va on voyage. Et même Corée-Japon pour voir un petit peu la différence, puisqu'on est tout près, on peut passer en bateau de l'un à l'autre.
Mais tu restes quand même dans le domaine du voyage pour la suite, les années à venir, ce sera toujours le voyage.
Oui, je ne vais pas me mettre à fabriquer des yaourts. Hein. C'est là que je connais, c'est mon univers. Donc c'est là aussi que les agences, les gens font appel à moi et me reconnaissent dans l'expertise que j'ai pu développer à force d'arpenter les itinéraires.
Ton site, un endroit pour trouver un petit peu ton travail photographique, ton travail cinématographique ou ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors, on a un site internet familial qui s'appelle Tribu du Coin. Voilà, donc où on présente les différentes œuvres cinématographiques, livres, publications et autres présentes dans les festivals, donc du père du coin, Jacques Ducoin. Alors lui qui est plus positionné sur le Grand Nord, donc tout ce qui est Grand Nord, Alaska, Canada, Détroit de Bering, Sibérie, Spitzberg, évidemment Laponie, enfin bon, toutes ces destinations-là qui sont assez nature aussi, il les aime bien. Mon frère qui a fait plusieurs films, ma mère qui a créé des livres et qui a des expositions sur les Indiens du Grand Nord canadien, sur les Dénés. Et puis mes œuvres aussi, donc tout ça sur le site familial tribuducoin.com.
Mais donc tes parents eux aussi ont vécu du voyage, ça a aussi été pour eux le moyen de vivre.
Oui, tout à fait, mon père était d'abord prof, mais après est devenu conférencier, et conférencier pour connaissance du monde à l'heure actuelle, ouais.
Et ton frère, pareil ?
Mon frère a été monteur audiovisuel, enfin réalisateur même de films, pour différents films, hein, beaucoup de films sur le voilier vagabond. Donc il s'est retrouvé au Spitzberg, en Sibérie. Après, il a fait d'autres films sur les Bretons du Tour du Monde. Il allait à la recherche de Bretons expatriés dans tous les pays du monde. Et donc, avec les films qu'on a fait en commun en Inde ou ailleurs, donc effectivement, il est souvent sur les routes aussi. Ouais.
Et maintenant que tu es père, pareil, ton enfant, tu vas l'emmener se balader un petit peu ?
Pour l'instant, elle a eu son premier passeport à l'âge de 3 mois. On lui tenait la tête pour qu'elle reste droite pour la photo. Et donc, elle va régulièrement en Corée, une fois, deux fois par an. Et puis, on a été déjà à Bali, et puis on verra par la suite. Mais ce n'est pas forcément le but de la faire voyager. Hein, mais c'est vrai qu'avoir, maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est des séjours à l'étranger. C'est-à-dire que l'itinérance, c'est une chose pour découvrir des endroits, mais se poser dans un bel endroit qui soit agréable, c'est aussi un voyage. Et donc, ça sera peut-être le cas avec elle.
Merci, David.
Merci.